Vous êtes de retour à la zone payante. C'est le moment maintenant des questions des auditeurs. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette, en direct de Philadelphia.
Philly, baby!
Chanceux, on va voir si on va avoir un bon match. En attendant, répondons un petit peu aux questions des auditeurs, s'il veut bien.
Ouais.
On va commencer avec Jérôme, un de nos réguliers, qui nous dit « Patrick Mahomes a démontré beaucoup de courage et de ténacité suite à sa blessure à la cheville. Avez-vous des exemples de performances de joueurs de la NFL qui ont joué en dépit de blessures et qui ont démontré autant de courage et de ténacité? »
Ouais, ben j'ai pas fait de recherche, mais il y en a deux, moi, qui me viennent en tête, là, vite comme ça. Moi, je me rappelle de Philip Rivers. Je sais que c'est pas un grand favori de bien des gens, là, parce qu'il lançait avec sa motion tout croche. Mais ça reste qu'il y a eu une très belle carrière et que je me souviens, en finale de conférence contre les Pats, je me souviens plus si c'était 2006 ou 2007, mais il avait joué sur un torn ACL, donc une déchirure du ligament croisé antérieur là, dans le genou.
Ça, c'est quelque chose.
Et imaginez comment ça devait être pénible. Tu sais, on voit cette blessure-là régulièrement dans la NFL, puis ce que ça signifie, c'est saison terminée. Dans le cas de Rivers, il s'était accroché parce que de toute façon, c'est pas un corps arrière qui utilisait beaucoup ses jambes. Mais quand même, là, moi, je me rappelle de cette prestation-là, puis de me dire comment c'est possible humainement qu'il termine ce match-là. Donc, chapeau à Rivers. Puis l'autre, ben c'est pas quelque chose que j'ai vu de mes yeux vus, parce que je suis trop jeune pour ça, mais en 1979, ça a tellement fait l'histoire dans la NFL, ça. J'ai vu des émissions là-dessus d'NFL Network, tu sais, des genres de football live puis des trucs comme ça, sur Jack Youngblood, qui était un ailier défensif des Rams, qui avait joué le Super Bowl avec la jambe cassée. Ça fait partie de la légende. Tu te dis comment ça se peut. Il s'était cassé la jambe la semaine d'avant, puis ça a été tenu secret. Personne ne le savait. La plupart de ses coéquipiers ne le savaient pas. Il avait fini par le dire le jour même à certains coéquipiers en disant « OK, mettez de la pression là, parce que ça va peut-être être un peu plus difficile de mon côté. » Puis malheureusement, on aurait voulu qu'il gagne. Quand tu écoutes une histoire de même, tu as frisson, tu te dis « ça se peut pas, le gars va gagner. » Mais non, il avait perdu contre les Steelers, les Rams. Mais vous irez voir ça, Jack Youngblood, là, sûrement qu'en googlant ou en YouTubant, vous allez trouver des histoires sur ça. C'est quand même assez fascinant.
Christian de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, entre Portneuf et Québec, nous pose la question. J'ai une question concernant Mr. Irrelevant. Est-ce que le fait que le tout dernier joueur repêché en 2022 soit aussi solide pour le moment et qu'on parle déjà de lui comme le partant des Niners pour 2023 est l'équivalent d'une claque au visage de toutes les équipes de recruteurs de la NFL, incluant celle de San Francisco? Est-ce qu'il y a d'autres Brock Purdy qui végètent présentement sur les practice squads ou comme QB3 dans d'autres clubs?
Ça va être dur à savoir s'il y a d'autres Brock Purdy parce qu'on les voit pas venir, ces gars-là, tu sais. Ça me fait un peu penser quand Kurt Warner est arrivé en 99 avec les Rams. Quand Trent Green s'est blessé, tout le monde se disait, ça y est, les Rams avaient une équipe prometteuse, mais là, la saison est fichue, ça n'a pas d'allure. On le connaissait pas, Kurt Warner. C'était un gars que la saison d'avant, il était troisième corps arrière des Rams. T'sais. Donc, des corps arrière comme Purdy ou d'autres, c'est dur à déceler là, dans un alignement. Tu regardes le deuxième, le troisième, des fois le quatrième corps arrière. Tu te dis, est-ce que ce gars-là a vraiment quelque chose? C'est dur à voir là, comme ça. Là. Pour ce qui est de, est-ce que c'est une claque au visage? Moi, je dirais que non. Parce que, écoute, tu peux pas toutes les détecter, les talents. Il y en a tout le temps qui passent à travers les mailles du filet. C'est un choix de septième ronde. Ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a 31 équipes qui se sont plantées. À un moment donné, tu peux pas dire, bon, ben les dépisteurs des 31 équipes sont toutes pourries, mettez-moi ça tout dehors, ils ont pas
et
vu
aussi, je dis, il était sur la liste, là, tu sais, il a été repêché, là.
Oui, ben, il a été repêché, mais en septième ronde, là, tu sais.
Oui, mais il a été repêché, tu sais, il y a plusieurs joueurs qui le sont pas, qui jouent aussi dans la NFL.
Est-ce que les recruteurs auraient pu voir quelque chose en lui? Peut-être, tu sais, le fait qu'il a été quand même gagnant à Iowa State, qu'il a fait performer une équipe qui n'est pas nécessairement
écoute,
performante.
Même Nick Saban a levé le nez dessus.
C'est ça. Donc, c'est faut. Moi, de là à dire, c'est une claque au visage. Je comprends la question là, Mais je pense pas qu'il faut blâmer nécessairement les recruteurs parce qu'à un moment donné, c'est comme il y a 31 autres équipes. Puis même les Niners, écoute, s'il avait été si bon que ça, Brock Purdy, ben, il aurait pu le repêcher en troisième ronde aussi, là. Donc, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de majeur que les gars voyaient en lui. Tu sais, il est un peu chenu. Il n'y avait pas nécessairement un grand bras, des grandes qualités athlétiques. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a du leadership, il est calme. Il est capable de faire les gros jeux. Il semble pas incommodé par la pression. Maintenant, j'ai hâte de le voir là, contre une équipe comme les Eagles. Tu sais, contre les Cowboys, il a été correct. Mais je dirais que c'était de loin son match le moins convaincant à date. Là. Donc, bien hâte de le voir contre les Eagles.
Aussi, ici à la zone payante, on est souvent devenu d'un espèce de groupe thérapeutique là, pour les gens qui sont déçus de leur équipe. Puis c'est le cas aussi avec Simon qui nous écrit souvent pour reparler de ses Giants. On va en profiter pour lui envoyer nos meilleures pensées, les Giants qui ont été éliminés en fin de semaine.
Sympathie.
Ben oui. Donc, il dit qu'il rejoint les clubs des endeuillés, mais qu'il y a quand même de l'espoir pour la saison prochaine. Puis dans le dernier podcast, il m'entendait dire que j'étais déprimé et que je voulais peut-être me lancer dans l'équinerie, là, avec les chevaux.
Le polo.
Voilà. Mais lui, il pensait que je m'en allais avec les Broncos. Non, quand même pas, là. On va pas changer d'équipe, mais peut-être suivre un autre sport quand on est trop déprimé, c'est une bonne solution. Puis là, il nous dit, parlant des Broncos, est-ce que c'est moi ou nous avons pas eu le décompte final de la course entre les passes de toucher de Russell Wilson et son nombre de salles de bain? Oh. C'est quand même important. Excellent rappel, Simon.
Mais occupe pas. Excellent. Là, Jean-Nic, il va falloir se mettre des rappels comme ça parce que j'aime pas quand on manque de rigueur.
T'as raison. Puis
c'est un œil au beurre noir pour la zone payante.
Comme dirait Justin Trudeau, je me suis déçu moi-même. Alors, on va...
Je pensais pas qu'on citerait Justin Trudeau dans cette émission-là.
On va faire le bilan de cette course endiablée qui a eu lieu tout au long de l'année. En effet, là, Russell Wilson, rappelons-le, a fait l'acquisition d'une propriété comportant 12 salles de bain. Et jusqu'à la fin de la saison, il y avait une lutte féroce entre le nombre de passes de toucher qu'il avait effectuées et le nombre de salles de bain dans sa maison, et il a fini en force. Russell Wilson, Broncos Country, let's ride, a terminé avec 16 passes de toucher. Il a laminé ses toilettes. Alors voilà pour le suivi là-dessus. Simon, on va y aller maintenant avec ta question. Parmi les équipes ayant joué la semaine dernière, laquelle vous a le plus impressionné et laquelle vous a le plus déçu durant son match?
La plus impressionnée, moi, je serais curieux de t'entendre aussi, Jean-Nic. Moi, c'est les Eagles, honnêtement. Là, je comprends que l'opposition n'était pas extraordinaire. Je m'excuse, Simon, pour tes Giants. Là, ça reste qu'on s'attendait à un résultat comme ça. Mais écoute, j'ai pas vu de faiblesse apparente là, dans cette équipe-là. Une ligne offensive complètement dominante, 268 verges au sol ou quelque chose comme ça, il n'y avait pas de pression sur Jalen Hurts. Au contraire, en défense, on applique une tonne de pression. La tertiaire qui tenait receveur tellement longtemps que ça finissait par créer des sacs. Puis tu regardes, cette équipe-là est tellement bien dirigée. La preuve, c'est que là, les deux coordonnateurs se font courir après par les autres équipes là, qui cherchent un entraîneur-chef. Donc, c'est comme si en ce moment, je vois pas comment cette équipe-là a quelque chose où tu te dis « Ah, tel élément, il faut absolument exploiter ça du côté des Eagles, c'est leur faiblesse claire. » Pour moi, il y en a pas. Puis pour la déception, avant de te passer le crachoir, parce que j'aime ça comparer, voir si on a les mêmes constats, là, mais moi, c'est les Bills, là, j'en parlais tantôt, l'attaque qui a marqué seulement 10 points. Franchement, là, c'était dur de s'attendre à ça. L'attaque, d'ailleurs, qui a régressé pas mal en cours de route. Puis, j'ai pas aimé voir les Bills perdre la bataille physique là, des deux côtés du front. Il y avait une chance là, avec la ligne à l'attaque éclopée des Bengals. Trois partants qui étaient absents. On n'a pas vu là, de ce côté-là du tout de joueurs performants en défensive du côté des Bills pour aller appliquer la pression malgré la situation. C'est ça. Pour moi, c'est ma déception.
Pour l'équipe qui m'a le plus impressionné, moi aussi, les Eagles m'ont énormément impressionné. Là, ils sont sérieux. Là, ils sont pas là pour faire une petite balade. Là, ils sont vraiment là pour aller chercher le gros trophée. Mais je veux quand même juste envoyer une petite fleur aux Jags, là, parce que ils ont donné un match quand même. Je comprends que Patrick Mahomes était un peu sur une jambe, mais quand même, là, ils ont donné un match à Kansas City. Ils étaient bien préparés. Ils ont tenu en haleine jusqu'à la fin du match. Ils ont bien géré le match. J'ai l'impression, tu sais, qu'ils ont donné tout ce qu'il y avait, puis ils peuvent partir. Tu sais, on voyait Trevor Lawrence à la fin partir puis attendre ses coéquipiers. Je pense que ils étaient fiers de leur game malgré tout.
Qu'est-ce qui serait arrivé si Jamal Agnew avait pas échappé le ballon proche des buts?
Voilà.
Il était à pas grand-chose près. On peut pas aller loin avec des si, là, mais il reste que c'est un jeu qui a changé le cours du match.
L'équipe qui m'a le plus déçu, mais on dirait que le match 49ers-Cowboys était décevant. Tu sais, je pense que les deux équipes ont pas joué à la hauteur de leur talent. Les Niners ont fait le minimum pour gagner. Écoute, là, c'est Dallas a fait 12 points. Fait que, il n'y avait pas besoin de beaucoup de points. On peut bien parler de Brock Purdy par-ci, par-là, là, mais il est en bas de 200 verges là, avant que George Kittle fasse un catch
quel attrapé, ouais.
Acrobatique. Je pense que les deux équipes m'ont déçu. J'ai pas trouvé que ce match-là était un grand match. Mais il fallait qu'une équipe gagne, c'était les Niners. Je pense que c'était la meilleure équipe sur le terrain ce match-là. Voilà, maintenant, une question de René. Est-ce qu'on va avoir 6 mois de spéculation sur Brady et Rodgers ou ça va se régler rapidement selon vous?
6 mois, non, mais 2 mois, je serais pas surpris. Là, je pense qu'il va falloir attendre mars. Parce que premièrement, là, c'est est-ce qu'ils vont prendre leur retraite ou pas? Le feeling qui se dégage, mais ça, on peut se tromper, là, mais le feeling qui se dégage, c'est que les deux semblent vouloir continuer puis que probablement que ça va être ailleurs.
Mais Rodgers est sous contrat.
Rodgers est sous contrat, sauf qu'on parle de plus en plus qu'il pourrait être échangé, qu'il y a des équipes qui sont prêtes à donner...
T'as-tu vu le prix qu'il demande, là? En tout cas, la rumeur, c'est 2 premiers choix repêchage.
Ouais. Si t'es les Jets... Puis que t'as une équipe comme ils ont en ce moment avec une défensive qui est prête à rivaliser avec n'importe qui. Des jeunes morceaux à l'attaque comme Garrett Wilson, Breece Hall et une couple de joueurs de ligne offensive qui sont sur leur contrat de recrue. Est-ce que tu te dis c'est le temps de faire sauter à la banque, de donner des choix et d'y aller all-in une année ou deux avec Aaron Rodgers? C'est peut-être pas fou, mais je sais pas pourquoi... peut-être que Rodgers, ça l'intéresse pas d'aller jouer là non plus. Il y a ça à considérer. C'est lui qui va avoir le gros bout du bâton. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va être échangé? S'il est échangé, où va-t-il accepter d'être échangé? Là, il y a des rumeurs qui disent que les Jets sont intéressés à amener Nathaniel Hackett comme coordonnateur offensif. Il y a une très bonne relation avec Rodgers. Est-ce que ça pourrait l'attirer à New York? T'sais, il y a tout ça qu'il va falloir surveiller. Là, il y a un jeu de domino qui va commencer à tomber dans les prochaines semaines. Mais la première chose, ça va être, est-ce que Brady et Rodgers veulent continuer? Si oui, ben là, où? Le Brady, on en a parlé quelques fois là, dans l'émission les dernières semaines. Là, moi, j'ai dit souvent que je le voyais avec les Raiders. Écoute, pourquoi pas les Panthers de la Caroline aussi? C'est une option là, qui va être probablement considérée. Là, parce
qu'est-ce que tu penses de la rumeur comme quoi l'arrivée d'O'Brien à Foxborough pourrait inciter Brady à finir sa carrière avec les Pats?
Ça me rentre pas dans la tête, ça. On sait jamais, là. On a vu des choses encore plus folles que ça dans la NFL, mais Brady puis les Pats, ben, surtout Brady puis Belichick, ça avait été un divorce assez difficile quand même. Est-ce que Belichick veut revoir Brady? Est-ce que Brady veut revoir Belichick? Tu sais, je pense pas que tout ça dépend de Bill O'Brien. T'sais, tant qu'à ça, Josh McDaniels a été son coordonnateur pas mal plus longtemps, là. Est-ce qu'il serait plus tenté d'aller avec les Raiders? Je le sais pas. Mais maintenant, écoute, sait-on jamais, ça serait tout un retour à Foxborough. Mais pour l'instant, moi, j'arrive juste pas à y croire.
On parle, puis juste pour finir là-dessus, là, tu sais, c'est quoi l'horizon pour se décider? Parce que la signature des joueurs autonomes, c'est au mois de mars, si je me
trompe. Ça va commencer le 15 mars officiellement, puis il y a une période de négociation de 48 heures avant ça. Donc le 13 mars, là. toutes les grosses nouvelles concernant les agents libres vont se donner. Dans le cas de Rodgers, il n'est pas agent libre, tu le mentionnais, il est encore sous contrat, donc ça pourrait arriver plus tôt. La période des échanges commence aussi le 13 mars, mais on l'a vu par le passé. Rappelle-toi d'Alex Smith, une année, là, il avait été échangé des Chiefs aux Commanders pendant la semaine du Super Bowl. Donc, c'est un échange officieux. Là. Ça, c'est devenu officiel le 13 mars, mais on le savait quand même quelques semaines avant. Là. Donc, si Rodgers a été échangé, ça pourrait arriver en février. Là. Ça pourrait arriver vite.
Jean-François nous demande, est-ce que Josh Allen est l'homme de la situation à Buffalo? Beaucoup de doutes là, dans les partisans des Bills.
Non. Josh Allen, je pense pas là, qu'il faut commencer à le pointer du doigt. Il est pas sans défaut. Les revirements cette année, ça a été trop. Faut pas oublier sa blessure, comme je le mentionnais. Il a joué toute la saison avec une blessure au coude. Ça doit pas être évident comme corps arrière. Là. Mais je pense que c'est clairement pas lui le responsable des problèmes des Bills. Au contraire, moi, je pense qu'il faut arrêter de le prendre pour Superman, essayer de mieux l'outiller, lui en demander un peu moins. Puis lui en demander un peu moins, ça veut pas dire de plus lui en demander. Ça veut juste dire, OK, on met pas 17 matchs sur tes épaules. On va en mettre quelques-uns sur tes épaules quand la situation va le commander, mais tu peux plus tout gagner en étant Superman. On va te donner les ressources pour le faire. Le problème, comme je le disais, c'est l'argent. Là. Les Bills n'ont pas de l'argent acheté par les fenêtres en ce moment, donc c'est ça qui va être le défi.
Et pour poursuivre, Hugo qui nous parle, qui lui aussi, hein, je pense, un partisan des Bills qui a vécu des émotions depuis l'élimination de son équipe, nous pose la question. Deux questions. Est-ce que Coach McDermott, pardon, et ses acolytes sont toujours les hommes de la situation à Buffalo? Et la fenêtre des Bills pour la grande finale est-elle toujours là ou bien elle est passée?
Ben, moi, je pense que oui, c'est encore les hommes de la situation. C'est certain que si on arrive l'an prochain avec une autre déception rapide, probablement que ça va être la fin pour McDermott. Tu sais, il est condamné à gagner avec cette équipe-là. Tu peux pas dire on va prendre sa fiche globale puis il est bon puis tout ça. Moi, je continue de penser que c'est un bon coach. Mais là, il faut que les Bills donnent des résultats. Puis le problème, c'est que ça va jamais être évident de gagner dans cette conférence-là. Là. Autant pour les Bills que les Chiefs, que les Bengals. Je pense que les Chargers n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Ça s'en vient. T'sais, ça me fait penser un peu aux années 90, quand je commençais à suivre le football, puis que, tu sais, on se disait les Packers, c'est une grosse équipe, les Niners, c'est une grosse équipe, mais pourtant, ils gagnaient à peu près jamais. Ils ont gagné un Super Bowl chaque dans les années 90 parce qu'il y avait les Cowboys aussi à tasser du chemin. Tu sais, c'est pas évident quand il y a des grosses, grosses équipes comme ça. En ce moment, les Chiefs, cinquième présence de suite en finale de conférence, tu sais, c'est pas mal eux qui ont le dessus souvent dans la mêlée. C'est un gros, gros défi d'évoluer dans cette conférence-là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le réflexe, moi, de me dire si j'étais chez les Bills, je pitcherais tout à terre puis je recommencerais avec des nouvelles fondations. Je pense que les morceaux sont là, il y a des améliorations à apporter, mais c'est pas une bonne idée de paniquer à ce stade-ci.
Fait que la fenêtre n'est pas fermée pour toi.
Non, pour moi, elle n'est pas fermée. C'est juste qu'elle n'est pas ouverte beaucoup à cause de la qualité des équipes à côté.
Et on revient sur Bill O'Brien parce que Julien nous pose la question, est-ce que Bill O'Brien sait ce que ça prend pour donner du pep à Mac Jones ou bien les Pats? Il n'y a plus rien à faire avec ça. un autre partisan un peu maussade.
Oui, ça fait une couple qui dit qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, les Pats? C'est un bon pas, là, O'Brien. C'est certain que tout ce qui n'est pas Matt Patricia et Joe Judge pour diriger le jeune Mac Jones, c'est, ça peut pas être pire que c'était, là. Là, tu amènes Bill O'Brien qui a de l'expérience avec les Pats. Ça peut pas être pire, comme je le disais. Maintenant, tu auras beau être le meilleur coordonnateur offensif au monde, il n'y a pas de joueurs qui font peur dans cette attaque-là. C'est ça le problème. Si tu es une défense adverse, tu es le coordonnateur défensif adverse, Jean-Nic, qui, dans cette attaque-là, toi, tu te dis cette semaine, ce joueur m'empêche de dormir?
Ben, ils ont eu des succès au jeu au sol pendant quelques moments pendant la saison, mais de là m'empêcher de dormir, non.
Non, non plus. Tu sais, c'est ça. Ils ont un jeu au sol correct, là, le fun. Mais il n'y a pas une bête là-dedans que je me dis, hey, lui, là, comment on va faire pour le freiner? Receveur, il n'y a rien.
Fait que, Devante Parker a toujours été sur la marge là, de faire de lui un receveur numéro un dominant, mais souvent blessé.
Souvent blessé, souvent effacé aussi. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui prennent le contrôle. Moi, pour moi, c'est ce que ça me dit sur les Patriots. Ça me dit Bill O'Brien, bonne addition, t'amènes de l'expérience, t'amènes un gars qui sait ce qu'il fait. C'est encourageant. Mais il faut maintenant des joueurs dans cette équipe-là qui vont empêcher l'adversaire de dormir un peu, qui vont le forcer à se préparer en ciblant un joueur précisément. Il n'y a pas assez de gars qui font peur dans cette attaque-là pour l'instant.
Et on arrive au moment de l'émission. C'est le moment, Robin. Robin qui nous envoie une question encore cette semaine. On le remercie de toujours penser à nous. Et il nous pose une question que je me suis posée moi aussi pendant la fin de la saison. Pouvez-vous m'éclairer sur la question des arrêts de jeu dans la NFL? On sait que chaque coach a droit à 3 timeouts par demi, mais certains sont de 30 secondes et d'autres durent quelques minutes. Est-ce le moment de la partie qui détermine leur longueur? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu? Est-ce que s'il y a beaucoup d'arrêts dans un match? Là aussi, des fois 30 secondes, des fois quelques minutes. Est-ce que c'est la pub qui détermine le nombre et leur durée? Comment ça fonctionne? Merci.
Qu'est-ce que
tu réponds, Robin?
C'est simplement une question que les réseaux de télé emmènent très large. Puis certains diront avec raison, ils mettent tellement d'argent dans la NFL que peut-être qu'il faut qu'ils emmènent large, justement. Mais en début de match particulièrement, là, la plupart des timeouts vont être d'une durée de 2 minutes, même si officiellement c'est 30 secondes. Mais c'est parce que les réseaux en profitent pour passer à la pause commerciale. On le sait qu'il y a beaucoup de pauses, surtout en début de match. Puis à un moment donné, tu arrives dans un stade du match où pas mal toutes les cases de publicité ont été passées. Puis là, ben, on va entendre l'officiel préciser que c'est un 30-second timeout, donc un timeout de 30 secondes pour que le flow du match là, continue, que ça se déroule rondement. On veut pas étirer indûment là, la durée de la partie. Donc là, les temps d'arrêt vont être vraiment plus casés sur 30 secondes. Habituellement, ben c'est ça, l'arbitre va le spécifier à ce moment-là. Donc, il y a une question beaucoup de publicité et de réseau télé là-dedans. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'arrêts de jeu et que les timeouts souvent sont plus longs en début de partie.
C'est ce qui conclut les questions des auditeurs. Merci d'avoir participé encore cette semaine. N'oubliez pas, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, Twitter ou Facebook. Vous pouvez aussi aller sur notre site, ben en fait sur la page Facebook, nos précieux conseils Fantasy Football. On pose chaque semaine la question si vous avez des questions pour nous durant l'émission. Aussi, on poste souvent l'émission, donc vous pouvez aller chercher là votre épisode de La Zone Payante. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel. À quelle adresse?
La Zone Payante à commercialquebecormedia.com. Puis il y en a quelques-uns là, cette semaine qui nous avaient envoyé des questions qu'on n'a pas pu répondre. Il y en avait quand même beaucoup. On va essayer dans la mesure du possible d'y revenir la semaine prochaine.
Après la pause, c'est les demi-finales. Qui se rendra au Super Bowl? Bougez pas, on fait nos prédictions après ceci.